Bonjour à tous. J'aimerais qu'on prenne le temps ce matin. Le temps d'être honnête. Vraiment honnête. Non pas d'une honnêteté accusatrice, mais d'une honnêteté qui libère, qui ouvre un chemin. Une honnêteté qui permet au Saint-Esprit de venir souffler sur notre cœur. Autant l'admettre, notre niveau de spiritualité est souvent faible. C'est ce qu'en substance, Hayden Wilson Tozer, grand prédicateur du siècle dernier, disait. Et c'est presque prophétique pour nous. Nous sommes habitués à des rythmes, nous sommes habitués à une foi qui fonctionne à bas bruit, sans grand élan. Nous nous sommes comparés les uns aux autres, jusqu'à perdre le désir profond de grandir dans les choses de l'esprit. Nous avons imité le monde, cherché ses faveurs, parfois même ajusté notre identité chrétienne pour être accepté, compris, applaudi. Et lorsque la joie du Seigneur nous a semblé lointaine, nous nous sommes fabriqués des petits plaisirs pour la remplacer, comme une réussite personnelle, une sécurité matérielle, un confort émotionnel, une apparente stabilité. Lorsque la puissance du Saint-Esprit nous a semblé inaccessible ou mystérieuse, nous l'avons remplacée par des puissances artificielles bon marché. Notre énergie, nos compétences, nos systèmes, notre organisation, notre maîtrise. Dans une certaine mesure, nous avons fait ce que l'être humain fait depuis toujours. Nous avons pris le contrôle. Et en prenant le contrôle, nous avons délaissé celui qui est notre vrai défenseur, celui qui combat nos peurs, celui qui ranime nos forces, celui qui nous éclaire, celui qui met la lumière sur notre chemin, le Saint-Esprit. Francis Chan, s'appuyant sur cette intuition spirituelle, écrit dans un de ses livres, « Dieu oublié ». Si j'étais Satan et que mon objectif ultime était de contrecarrer les plans de Dieu, les plans de son royaume, je tenterais avant tout d'amener les chrétiens à négliger le Saint-Esprit. Notre négligence a grandi proportionnellement à notre sentiment d'insatisfaction dans l'Église. Ce quelque chose qui manque est en réalité quelqu'un, le Saint-Esprit. Sans lui, nous obtenons seulement des résultats à taille humaine, mais lorsque les croyants vivent par sa puissance, ils vivent une vie surnaturelle. C'est exactement cela. Nous savons intellectuellement que le Saint-Esprit est Dieu, la troisième personne de la Trinité. Mais existentiellement, nous l'avons parfois oublié comme un cadeau déposé dans un coin, un cadeau que nous n'avons jamais vraiment déballé, il faut le dire, un cadeau précieux laissé prendre la poussière. Et pourtant, ce matin, Dieu veut nous dire à chacun, ravive la flamme, rouvre le cadeau, redécouvre le don oublié. En cette période de l'Avent, alors que nous allumons chaque semaine une bougie de plus, symbole de lumière croissante, Dieu veut allumer en nous la flamme de sa présence, pas une flamme décorative, pas une flamme sentimentale, mais la flamme vivante du Saint-Esprit qui éclaire, qui transforme, qui ranime et qui libère. Nous allons lire maintenant le texte de Paul à Timothée. La référence est la suivante, c'est dans la deuxième lettre à Timothée au chapitre 1, verset 6. Le passage est relativement court, 6 et 7, verset 6 et 7. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer la flamme du don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Ce texte va guider notre réflexion, une réflexion qui s'inscrit dans une série, c'est pas la même série que Sam, mais une série qui a pour le thème les cadeaux de Dieu. Souvent, on a des séries et il faut y s'y coller. Et cette série-là, elle est vraiment très importante. Elle est au cœur de notre foi. La série des cadeaux de Dieu, des choses que nous pouvons vraiment ressentir et vivre de manière palpable. Souvenez-vous, la semaine dernière, Laurent nous avait tenu en haleine, avec ce merveilleux cadeau qu'est pour nous Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous arrêterons, vous l'avez compris, sur un autre cadeau, celui de l'Esprit. Mais avant d'aller plus loin, je vais prier. Seigneur notre Dieu, permets que notre cœur soit attendri afin qu'il puisse recevoir de toi, que nous puissions ouvrir nos oreilles et nous laisser convaincre par ce que ton Esprit veut dire. À travers ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Comme le passage est court, j'en profite, je vais le relire dans une autre version. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc voici un peu le contexte. Avant d'aborder le premier point, ce texte nous vient de l'apôtre Paul. Paul écrit à Timothée, et Timothée est en quelque sorte son fils spirituel dans le ministère. Paul encourage Timothée à rester ferme dans sa foi et dans son ministère, malgré la peur ou la pression sociale. Parce que si on s'attarde au contexte, on voit que l'hostilité politique romaine est de mise. Il y a eu un grand incendie à Rome en 64, les chrétiens deviennent des boucs émissaires et sont accusés d'être dangereux pour l'ordre social. Ils sont perçus comme refusant le culte impérial et surtout aussi considérés comme une secte étrange et antisociale. Ce qui signifie qu'être chrétien est un risque réel d'arrestation, de perte de statut ou de mort. Paul est lui-même en prison à Rome au moment où il écrit. Il existe donc un rejet social du christianisme. Les gens autour voient les chrétiens comme des gens bizarres, parce qu'il ne participe pas au culte païen. Certains y voient Paul et ses collaborateurs comme des fauteurs de troubles, des traîtres à la tradition, des propagateurs d'une doctrine dangereuse. Timothée fait face à des crises internes dans l'Église, des croyants qui abandonnent la foi, de fausses doctrines, des collaborateurs qui laissent tomber, par exemple. De plus, le leadership de Timothée augmente la pression. Timothée est jeune, il est timide, il est malade de surcroît. Il doit affermir une église qui est attaquée, enseignée avec autorité et rester ferme sous persécution. Paul lui rappelle alors la grâce et le don que Dieu lui a accordé. Il lui rappelle que tout ce qui est attendu des chrétiens, c'est qu'ils vivent les conséquences de l'acte salvateur de Dieu. Ils peuvent le faire sans timidité, car Dieu leur a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Or ici, Paul nous exhorte à raviver la flamme. Littéralement, on sent l'urgence de son exhortation. Mais alors, qu'est-ce qu'il convient de faire pour raviver cette flamme? Paul dit à Timothée, ravive, ranime, souffle sur la flamme du don de Dieu. Ce don, nous le savons, ce n'est pas un simple talent, ce n'est pas seulement une capacité, ce n'est même pas seulement un appel. Le don dont parle Paul, c'est une personne, le Saint-Esprit, qui habite en nous, qui nous a été donné, qui ne s'en va pas et qui s'attend. Lui n'attend que d'être ravivé. Imaginons une série de poupées russes. Vous voyez ce que c'est? Tout le monde a la rêve, même les plus jeunes. Regardons du coup ces poupées russes. Qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur? On en a une grande, une belle poupée en bois peint. On l'ouvre, il y en a une plus petite. On ouvre encore, il y en a une troisième, une quatrième, et encore. Souvent, notre vie spirituelle est comme la première poupée. Une apparence, une couche extérieure, une structure. Il peut s'agir de carapaces que l'on s'est construit pour éviter. Pour éviter quoi? Les flots trop tumultueux de la vie, ou encore de l'oubli par manque de reconnaissance sincère à toutes les bénédictions, les grâces imméritées du quotidien, si petites soient-elles, on vient d'en parler. Il peut s'agir de routines, d'habitudes, que plus rien ne vient heurter ou accrocher. Il peut s'agir d'insensibilisation, lentement, subtilement, construite par l'exposition continuelle à un catéchisme culturel qui est perverti. Mais plus nous ouvrons ces poupées, plus nous laissons l'esprit travailler, œuvrer, plus nous découvrons qu'il y a en nous quelque chose de vivant. Et au centre ultime de tout, il y a le Saint-Esprit lui-même. Présent, intact, brillant, prêt à être révélé. On peut prendre une deuxième image si jamais ce n'est pas assez clair. On peut imaginer une maison dont la fenêtre est couverte de poussière. Le soleil est là, dehors, brillant, puissant, généreux, mais la pièce reste sombre. Pourquoi ? Parce que la vitre n'a pas été nettoyée. Le Saint-Esprit, comme ce soleil, il brille déjà. Il est déjà en nous, mais si notre cœur, la vitre, est recouverte de poussière, de distraction, de blessure, de péché, alors sa lumière n'entre plus. David, dans le psaume 51, prie « Crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il demande littéralement « Nettoie la vitre, ravive la lumière. » Moi, j'enfonce le clou un peu plus dans la compréhension de ce que l'esprit est et où il est. Imaginez encore un coffre au fond d'une pièce ou un grenier. Dans ce coffre, il y a un héritage, un diamant. Et si le coffre reste fermé, si personne n'en soulève le couvercle, si la clé reste pendue dans le vide, le trésor n'apporte rien. Le Saint-Esprit est cet héritage. Ce coffre n'est pas vide. Il contient la présence de Dieu lui-même. Et bah, je ne résiste pas à employer une dernière image. Paul dit « Ranime la flamme ». Ce n'est pas « allume la flamme », elle existe déjà. Ni « crée la flamme », elle est un don, un cadeau. Ranime ce qui existe déjà, souffle dessus, laisse-le brûler. Dans Lévitique, Dieu dit que le feu devait brûler constamment sur l'autel. Le feu brûlera sans s'éteindre. Dans nos vies, la flamme n'a jamais été éteinte. Comme ça, peut-être le cas sur Snapchat, ou là, si on veut retrouver ces flammes, il est nécessaire de payer. Certains comprendront. Cette flamme a simplement été étouffée. Nous avons tant de promesses dans la Bible. En effet, Dieu promet un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. David demande que son esprit soit renouvelé. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Consolateur vous enseignera toutes choses. Et cela sort de la bouche de Jésus-Christ. Pourquoi pas cette semaine faire un geste simple, concret pour commencer, recommencer, comme ouvrir chaque matin nos mains et dire « Esprit de Dieu, ravive en moi ta flamme ». On peut ouvrir une poupée russe, spirituelle, enlever une couche de bruit, de distraction, de peur. On peut nettoyer une vitre avec un pardon à offrir, une confession, un choix de vérité. Ouvrir un coffre, relire une promesse, reprendre la prière, reprendre la louange, c'est rien de spectaculaire en fait. C'est pas quelque chose à se mettre sur les épaules et à avancer lourdement avec. C'est se mettre en chemin simplement, juste pour ranimer, parce que bien souvent, ce n'est pas très loin de nous. Mais il arrive qu'on n'y arrive pas pour autant. Et si Paul dit à Timothée « ravive la flamme », c'est bien parce qu'il sait que quelque chose dans le cœur humain s'y oppose. Quelque chose l'étouffe. Quelque chose l'empêche. Quelque chose la refroidit, cette flamme. Et Paul le nomme immédiatement, dès le verset suivant. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Autrement dit, ce qui éteint la flamme du Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit, mais c'est la peur. Nos peurs. Nos peurs, nos doutes, nos résistances, mais aussi nos mensonges intérieurs, nos blessures anciennes, nos voix intérieures contradictoires. Nous n'arrivons pas à raviver cette flamme à cause de la peur. Mais la peur de quoi ? La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre le contrôle, de ne pas comprendre ce que le Saint-Esprit pourrait faire, de paraître faible, de changer, ça peut être difficile, de nous abandonner réellement à Dieu. Je pense que la peur est probablement le plus grand obstacle spirituel dans la vie chrétienne. Et si Paul part d'un esprit de timidité, c'est qu'il sait que la timidité n'est pas un trait de caractère, mais une attaque spirituelle, un brouillard, une paralysie. Timothée était jeune, Timothée était fragile, Timothée était impressionné, impressionnable. Alors Paul lui dit, tu n'es pas seul. Le paraclète est en toi. Le paraclète. Trois petits points. Pourquoi nous n'y arrivons pas ? Nous n'y arrivons pas à cause des voix qui nous ont façonnés. Je tenais à vous partager un texte qui a été écrit et mis en musique par Anne-Clémence Rouffet. C'est une artiste chrétienne. Et son texte s'intitule « Ils m'ont dit ». Ces mots ont profondément résonné en moi ces derniers temps. Ils expriment exactement la confusion spirituelle que tant de croyants peuvent éprouver à un moment ou à un autre de leur vie. Ils m'ont dit que tu étais dur. Ils m'ont dit que tu étais l'amour. Et avec ces idées en tête, fallait que je sois sincère. Ils m'ont dit que tu étais pour. Ils m'ont dit que c'était sûr. Et malgré les étiquettes, je ne sais toujours pas quoi faire. Tu étais caché, par-delà du trou noir, de l'autre côté, de ce qu'on voudrait voir. Mon défi fort à moi, c'est de te croire, toi. Ils m'ont dit que j'ai pas le droit, sans me dire que j'avais le choix. Et ça a gâché, ça m'a gâché la fête. Mais ça n'était pas ta loi. Ils m'ont dit qu'il faut y croire, ils m'ont dit, faut pas les croire. Et ça tournait dans ma tête, tant et tant que j'en rêvais le soir. Tu étais caché par-delà du trou noir, de l'autre côté de ce qu'on voudrait voir. Mon défi fort à moi, c'est de te croire, toi. C'est de te croire, toi. En fait, toi, tu es comme le zéphyr qui souffle même sans qu'on ose le dire. C'est doux, c'est frais, c'est invisible, c'est bon, c'est vrai, c'est irrésistible. Nous découvrons souvent Dieu derrière un trou noir, derrière ce que les autres ont dit, derrière ce que nos expériences ont peint, derrière ce que nos blessures ont façonné. Il y a des instants, des moments, des périodes de doute, mais aussi des vides, des chutes vertigineuses, ou encore, c'est peut-être le pire, je ne sais pas, ou encore des inerties qui semblent durer une éternité. Et notre plus grand défi, mon plus grand défi, comme le dit ce texte, mon défi fort à moi, c'est de te croire, toi. Nous n'y arrivons pas à ranimer cette flamme à cause de l'influence du monde. Paul dira dans Romains 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous nous sommes parfois conformés. Nous avons cherché l'approbation du monde. Nous avons absorbé ses discours, ses critères, ses mécanismes. Alors la flamme s'est affadie. Nous n'y arrivons pas parce que nous avons oublié qui combat nos peurs. C'est ici que nous devons nous rappeler l'un des plus beaux noms du Saint-Esprit, le paraclète, celui qui vient auprès de nous. Cela vient du grec. Celui qui parle pour nous, celui qui défend notre cause, celui qui combat nos peurs. Jésus dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ». Le mot « consolateur » peut être aussi traduit par « défenseur », « intercesseur », « conseiller », « avocat », celui qui prend parti pour nous. Alors lorsque la peur dit « tu n'y arriveras pas », le paraclète dit « je suis avec toi ». Lorsque la peur dit « tu n'es pas assez spirituel », le paraclète dit « je te conduirai ». Lorsque la peur dit « et si tu te trompais », le paraclète dit « je t'enseignerai ». Lorsque la peur dit « Dieu t'a abandonné », le paraclète dit « je demeure en toi ». Lorsque la peur dit « regarde ton passé », le paraclète dit « regarde Jésus ». Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. L'amour parfait bannit la crainte. Et quand on regarde à lui, quand on regarde à notre Sauveur, on est illuminé. Jésus l'a souligné, il vous est avantageux que je m'en aille, alors que le Consolateur, afin que le Consolateur vienne. La peur, c'est comme de la suie sur la vitre, même si le soleil est brillant, la lumière ne passe plus. Ce n'est pas que la lumière est éteinte, c'est que la vitre est opaque, le Saint-Esprit ne s'éteint pas. Mais la peur l'étouffe à nos yeux. Cette semaine, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un geste tout simple, comme écrire sur une feuille les trois peurs les plus fréquentes dans votre vie spirituelle. pour écrire en fait en face une promesse du paraclète. Ça peut être, par exemple, j'ai peur de ne pas être assez spirituel, il m'enseignera toute chose. La peur se tait. Vous savez que la peur se tait quand la parole parle. Donc tout ça, c'est possible grâce à Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Après avoir vu ce que nous devons faire, ranimer la flamme, et compris pourquoi c'est si difficile, nos peurs, nos résistances, les voies contradictoires, nous arrivons maintenant à la bonne nouvelle. La nouvelle centrale de ce message, c'est que ce que Dieu demande, ce qu'il demande, c'est ce qu'il rend possible. Dieu ne dit jamais « fais cela, bonne chance, débrouille-toi ». Non. Celui qui demande est celui qui accomplit, celui qui ordonne est celui qui équipe, celui qui appelle est celui qui fournit la force. Et c'est pour cela que Paul dit « Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse ». C'est-à-dire, il nous a donné son propre esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il ne nous l'a pas prêté, il nous l'a donné. Il ne l'a pas déposé dans une salle voisine. Il l'a fait habiter en nous. Alors c'est possible parce que Jésus est vivant. Pourquoi le Saint-Esprit peut-il raviver la flamme en nous ? Parce que Jésus est là, parce qu'il règne, parce qu'il intercède pour nous, parce qu'il a vaincu la mort, le péché, la peur, la honte. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ce n'est pas une punition, c'est une promesse. Jésus a vécu par l'Esprit. Même Jésus, Fils de Dieu, parfait, saint, sans péché, a choisi de vivre dépendant du Saint-Esprit. Jésus n'a pas fait de miracles, Jésus n'a pas enseigné, n'a pas résisté à la tentation sans l'Esprit. C'est l'Esprit qui descend sur lui au baptême, qui le conduit au désert, qui le fait aller à nouveau en Galilée et qui le fait annoncer la bonne nouvelle. Jésus explique que son Saint-Esprit va maintenant venir en nous. Il nous conduira dans toute la vérité. La mission de Jésus sur terre devait se prolonger dans la mission du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et ici, nous revenons au cœur doctrinal. Le Saint-Esprit n'est pas une force, il n'est pas une inspiration, il n'est pas une ambiance, il n'est pas un ressenti. Il est Dieu, la troisième personne de la Trinité, co-éternel, avec le Père et le Fils, consubstantiel, c'est-à-dire la même nature, pleinement divin, pleinement actif. On oublie parfois que Dieu le Père est pour nous, Dieu le Fils est avec nous et Dieu le Saint-Esprit est en nous. Et si le Saint-Esprit est Dieu, alors il peut raviver, il peut purifier, il peut guérir, il peut éclairer, il peut libérer, il peut transformer et il peut défendre. Parce qu'il n'agit pas à côté de Dieu, il agit en tant que Dieu. Le mot « paraclétos », on y revient, ce n'est pas un mot théologique froid. Il signifie celui qui se tient à côté, celui qui prend la défense, celui qui parle quand on n'a plus de mots, celui qui te relève, celui qui combat ton combat intérieur et c'est celui qui te console, qui te conseille, qui te fortifie. Ça fait beaucoup, hein ? C'est un cadeau quand même assez extraordinaire. Jésus, lui, est aussi appelé paraclète auprès du Père. Dans Jean 14, c'est le Saint-Esprit qui est appelé paraclète auprès de nous. Autrement dit, le ciel et la terre conspirent pour nous défendre. Jésus intercède dans le ciel, le Saint-Esprit plaide dans notre cœur. Et quand deux paraclètes, l'un auprès du Père et l'autre en nous, parlent ensemble, la peur n'a aucune chance. Puisque nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, montrant que la vie chrétienne n'est pas une autodiscipline, mais une dépendance active. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cela rappelle que le Saint-Esprit n'enferme pas, jamais. Il libère. Jésus promet des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein en parlant du Saint-Esprit. C'est une image de vie qui déborde de l'intérieur, plutôt d'une vie qui est fabriquée de l'extérieur. L'Esprit, lui, vient au secours de notre faiblesse, c'est-à-dire qu'il prend nos poids et les transforme en prière. Paul prie pour que nous soyons fortifiés par l'Esprit dans l'homme intérieur, montrant que l'œuvre de l'Esprit commence au centre de notre être, au centre. Rappelez-vous l'image des poupées russes. Une fois qu'on les a toutes ouvertes, il y en a une toute petite, au centre. Dépouillée de tout, mais revêtue de l'esprit. Et là, il y a toute la place pour qu'on puisse s'exprimer en accord avec Dieu. L'avant, un autre point, c'est la période où nous allumons une bougie, l'une après l'autre. La lumière augmente, la chaleur augmente, l'attente devient espérance. Imagine un foyer presque éteint, les braises sont faibles, quelques cendres de la fumée, mais plus de flammes. Si tu souffles doucement, si tu rapproches une brindille sèche, si tu protèges du vent, la flamme revient. Le Saint-Esprit agit de cette façon. Il ne force pas. C'est un gentleman. Il ne brusque pas. Il souffle, il rallume, il guérit, il prend ce qui est faible et il le rend vivant. L'avant n'est pas seulement l'attente de la naissance de Jésus, c'est l'attente de la renaissance de notre cœur. Et le Saint-Esprit est celui qui rend cela possible. J'aimerais vous proposer une dernière chose. Pour les jours qui viennent, prendre un engagement spirituel simple. Vous pourriez chaque matin allumer une petite flamme réelle ou symbolique, une bougie, une lampe, et dire « Seigneur, que ton esprit ravive la lumière en moi aujourd'hui. » Pas pour créer une ambiance, mais pour dire à notre âme « La lumière vient, la flamme revient, le paraclet est là. » Je ne suis pas seule et ma peur ne me commande plus. Et parce que nous avons besoin d'entendre les mots de la bouche de notre Seigneur qui parle à notre cœur, prenez le temps de lire les chapitres 14 à 16 de l'Évangile de Jean et laissez-vous imprégner par ces paroles. Prêtez particulièrement attention à la façon dont Christ désire que ses disciples aient la paix et comment il les réconforte en les assurant qu'après son départ, il ne les laissera pas seuls. Pour terminer, j'aimerais juste revenir au début. Nous avions commencé par un constat honnête, notre spiritualité souvent faible, nos comparaisons, notre intimidation du monde, nos petits plaisirs substitutifs, notre puissance artificielle, notre négligence du Saint-Esprit. Mais maintenant, à la lumière de 2 Timothée 1, versets 6 à 7, nous pouvons dire que ce n'est pas un constat, ce n'est pas une condamnation. C'est une invitation, c'est un appel, c'est un réveil. Dieu ne nous dit pas « Comment avez-vous pu négliger le Saint-Esprit ?» Il nous dit « Ravive la flamme, je suis avec toi, mon paraclet est en toi, n'aie pas peur. » Nous avions commencé avec Aidan Wissenthauser et Francis Chan qui disaient « L'Église manque de quelque chose » et nous pouvons répondre aujourd'hui « Oui, elle manquait de quelqu'un. » Mais ce quelqu'un est de retour au centre. Nous avions commencé par un cadeau oublié, prenant la poussière, et nous terminons par un cadeau rouvert, une flamme ravivée, une lumière retrouvée. J'aimerais vous inviter à faire votre un psaume de David, ou tout du moins une partie. Le psaume 27 est un psaume de confiance, un psaume de victoire, un psaume de lumière. Il relie parfaitement la période de l'avant, la lumière qui vient, et la mission du paraclète, la défense contre la peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Je demande à l'Éternel une chose que je cherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ce psaume proclame la victoire avant même qu'elle n'apparaisse. C'est comme remercier avant de ne pas voir les fruits en fait. Et c'est exactement ce que l'Esprit fait en nous. Il met la victoire dans notre cœur avant que nos yeux ne la voient. En réponse à tout ce que nous venons de voir, je vous propose de chanter « Victorieux » du collectif Cieux ouverts. Peut-être que ce chant n'est pas encore connu de tous. Peut-être que la mélodie sera nouvelle. Peut-être que les paroles ne vous sont pas familières. Mais c'est parfait. Parce que raviver la flamme, c'est exactement cela. Entrer dans quelque chose de nouveau. Oser ouvrir un espace. Laisser l'esprit souffler. Laisser le paraclète défendre notre cœur contre la peur. Laisser la victoire de Dieu résonner en nous avant de la comprendre. Alors je vous invite dans un instant, quand nous chanterons, à ne pas chanter seulement avec votre voix, mais avec votre foi. Chantez avec votre âme, chantez avec la flamme ravivée. Chantez avec la confiance que le Saint-Esprit est Dieu. Chantez en laissant derrière vous les « Ils m'ont dit » pour entrer dans la vérité que lui vous dit et que cette proclamation devienne la nôtre. Le Seigneur est victorieux et son esprit est en moi. Merci mon Dieu pour ce cadeau. J'invite l'équipe à me rejoindre.